Bonjour, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, où je me réjouis de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors, après l'abandon spirituel évoqué lors de notre dernière émission, il m'a semblé intéressant d'envisager une autre forme d'abandon, celui du chemin et celui de la rencontre. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de traverser la France à pied, le long de ce que l'on nomme la diagonale du vide, en compagnie d'un jeune couple et de leur bébé de 3 mois, du moins au début. C'est un vrai défi que Romain et Justine Bresse ont relevé après un coup du sort personnel, professionnel. En avril 2024, ils quittent Sedan pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port, parcourant 1500 km en 4 mois. Sur les sentiers désertés de la diagonale du vide, leur fils Omer explore le monde depuis sa poussette. Chaque jour, la famille marche, se reconstruit et pour échapper aux intempéries, demande l'hospitalité qui, surprise, est toujours au rendez-vous. Le couple partage ainsi des moments d'une rare intensité avec ses hôtes d'un soir. Et à travers 20 départements, ils découvrent ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, la solidarité et la curiosité pour celui qui passe, et même l'amour. Voilà, c'est un très beau récit de marche, d'émerveillement face aux richesses géographiques et humaines de notre pays, fort bien écrit également, mais aussi un récit de renaissance, un hymne à la vie qu'il nous offre dans leur ouvrage intitulé « Une famille en chemin » publié chez Transboréal. Alors pour des raisons pratiques et techniques, nous avons dû procéder à l'enregistrement de cette émission en 2 temps et nous nous entretiendrons tout d'abord avec Justine Bresse, puis dans une seconde partie avec Romain, car je tenais à les faire intervenir tous les deux, tant leur couple, leur binôme est complémentaire et uni pour nous relater cette aventure. Ne manquera qu'une seule personne à ce trio, donc Omer, leur fils de bientôt 2 ans et demi, mais néanmoins peut-être encore un peu petit pour parler à ce micro. Donc bonjour Justine Bresse.
Bonjour cher Pascal, merci beaucoup.
Merci à vous
pour cette invitation.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. J'ai été vraiment très touchée par votre livre, par votre démarche, par votre amour de la France aussi, des gens, et puis par toute cette humanité qui est contenue dans votre texte et qui est très fort, voilà, et qui fait du bien en ce moment, qui fait beaucoup de bien. Alors pour vous présenter, vous avez travaillé avec Romain, votre époux, dans le secteur de la défense nationale pendant plusieurs années, avant de partir donc à pied sur les chemins de France. Et vous êtes amateur de longue date de la marche. C'est important dans cette émission. Vous êtes aussi, bien sûr, auteur maintenant, donc d'Une famille en chemin, que je montre à la caméra, édité donc chez nos amis de chez Transboréal, que je salue par la même occasion. C'est donc votre premier ouvrage. Et exactement, nous vous en félicitons et nous en attendons d'autres, nous espérons en tout cas, très sincèrement. Mais avant, il faut quand même un petit peu que l'on voit ensemble de quoi vous nous parlez. Et alors ma première question est la suivante, c'est évidemment bien sûr, c'est qu'est-ce qui peut inciter un jeune couple qui vient d'avoir un bébé à partir le long de la diagonale du vide, soit 1500 km. Et pourquoi, en fait, une telle aventure qui paraît à premier abord assez, j'allais dire, peu prudente, voire insensée?
Alors, il faut se remettre dans un contexte 2 ans en arrière, où du jour au lendemain, avec Romain, on a fait face à un coup du sort et où on a fait face à un vide professionnel soudain, très brutal, qui s'est accompagné, d'un vide social relatif. Et notre manière de conjurer le sort à ce moment-là de notre vie, ça a été de conjurer le vide par le vide, en allant marcher sur cette fameuse diagonale du vide. En mathématiques, moins par moins, ça fait plus. Et donc, on s'est dit qu'on allait conjurer le sort en allant marcher. Après, la marche, effectivement, est une activité, l'activité idoine quand on doute, quand on traverse des moments difficiles ou heureux. D'ailleurs, il y a toutes les raisons du monde pour aller marcher. Et notre première réponse à ce coup du sort a été de se dire on va se mettre en mouvement, on va aller marcher et puis on va aller voir ce qu'il y a dans le vide.
Alors, vous écrivez d'ailleurs que vous couvez un besoin de fuite. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un besoin de recul pour comprendre et de temps aussi pour réfléchir. Parce que, comme vous l'avez dit, bon, là, vous êtes passé de façon très pudique sur ce qui, sur cette épreuve. Il faut savoir tout de même, je pense qu'on peut le dire, que vous n'avez jamais connu le motif de ce licenciement, puisque c'en était un. Et puis également, la réaction des proches, des collègues, voire amis, ceux que vous pensiez être des amis qui vous tournent le dos, voire pire, tout cela provoque chez vous un vrai traumatisme, en fait, une multiple blessure, ou une blessure multiple.
Oui, ouais. C'est ça. Mmh. Le licenciement en soi est quelque chose de très brutal. Et suite à des moments difficiles, c'est vrai qu'on a tendance à attendre du soutien de la part de ses proches, effectivement. Parfois, ce soutien ne vient pas. Il arrive qu'il vienne et c'est formidable, et parfois il ne vient pas. C'est souvent dans ces épisodes un petit peu paroxysmiques, de crise, que les relations apparaissent telles qu'elles sont. Et donc ça nous a permis aussi d'y voir plus clair, aussi d'avancer. Mais toujours est-il que, effectivement, durant cette crise, nous n'avons pas obtenu le motif de nos licenciements. C'est ce qui a été assez brutal et assez difficile pour effectuer un deuil, puisque nous avions ce besoin, et nous l'avons toujours d'ailleurs, d'explication, de transparence. Et il est difficile de passer à autre chose lorsqu'on ne donne pas de raison. Alors, c'est vrai qu'on a fui. On a fui Paris, on a fui la capitale, on a fui peut-être un quotidien qui, in fine, ne nous convenait pas, sans qu'à l'époque, on n'osait pas finalement se le dire, se l'avouer. On a fui peut-être trop de sollicitations, peut-être trop de notifications, peut-être trop de bruit, et on a décidé de s'abandonner complètement à la vie, à l'existence, entre guillemets, foutu pour foutu. On se disait qu'on n'avait plus rien à perdre.
Mais alors, ce qui m'épate, moi, dans votre démarche, c'est que vous prenez cette décision alors que... Enfin, d'abord, Romain a cette annonce alors que vous êtes sur le point d'accoucher.
Oui.
Ça aurait pu d'ailleurs provoquer la naissance de votre fils de mère beaucoup plus tôt.
Il est venu plus tôt. Oui, oui.
Alors, vous, on se dit déjà, quelle force mentale vous avez. Bon, c'est sûr que vous portez la vie, donc... Voilà, votre réaction face à ça, vous devez être à la fois effondrée, puis en même temps, il faut que vous assuriez.
Il fallait tenir. Ouais. Il fallait tenir. C'est vrai que Omar est venu au monde 2 semaines plus tôt. Je pense que c'est pas anodin. Je suis pas allée au terme de ma grossesse. Et à la fois, il est venu crier dans un quotidien où pénétré par le silence. D'un coup, il y avait ce vide, et finalement, sa venue au monde est venue apporter beaucoup de joie. Au moment où on a appris cette nouvelle-là, et quand Omar était encore dans mon ventre, c'est vrai que on se conditionne, je pense, pour ne pas trop y penser, pour ne pas faire un lien direct entre le cerveau et le placenta. On se refuse à ce type de choses. On ne veut pas s'effondrer. On doit être fort, de toute façon, pour l'accouchement aussi, qui arrive.
Oui.
Pour Romain aussi, mon mari qui perdait son emploi, mais plus qu'un emploi, puisqu'il s'agissait de sa passion depuis toujours.
C'est ça qui a été redoutable aussi. Voilà.
Et donc, c'est une blessure, finalement, de laquelle on ne peut pas vraiment guérir. Elle s'amenuise, peut-être. On souture au fil du temps, mais la blessure est bel et bien toujours présente. Mais en tout cas, on ne se laisse pas aller. Et pour éviter de rester... À gamberger, on choisit de se mettre en mouvement, d'avancer, de faire un pas devant l'autre et de la marcher. Et
cette décision d'aller marcher, elle est venue très vite, hein, je crois.
Immédiatement. Le soir même, je pense qu'elle était en nous et que cette crise a révélé quelque part ce qu'il y avait déjà en nous. Le soir même, on savait qu'on allait partir. Avant même d'accoucher, on savait qu'on allait partir. Et puis, on avait ce pressentiment complètement... stupide de se dire que de toute façon, Omer allait être solide.
Ça c'est magnifique.
Et que ça allait être un bébé solide et qu'il allait très bien se faire à cette aventure.
Vous tous les deux ou vous en particulier? Parce que vous avez quand même un caractère tout à fait positif, Justine.
Oui,
hein.
Non,
vous êtes, tous les deux. Vous êtes très confiante dans la vie. Mais là, franchement, bravo. Alors, marcher, justement, vous, on en parlait et vous disiez l'importance de la marche. Et moi, je voudrais vous citer. Alors, c'est un livre qui a été écrit, on peut le dire, à quatre mains,
oui.
Avec certains passages plus Romain et d'autres plus vous. Chacun un petit peu son style, on va dire. Lui, l'aventure relatée et vous, le côté peut-être plus, pas psychologique, mais plus
émotionnel. Voilà. Oui, tout à fait.
Alors là, en l'occurrence, c'est écrit, on va dire, à deux. Marcher opère sur le corps et l'esprit le même travail de retrait de matériaux et de pensées en supprimant les tissus superflus, qu'ils soient musculaires ou adipeux. Tout ce qui ne sert pas à marcher vite et bien disparaît à la longue. L'esprit, lui, est libéré. Le coutelier ne pense qu'à l'angle, à la vitesse et à la reproduction exacte de son geste. Le randonneur au long cours est focalisé sur son avancée, son hydratation et sa récupération. Quand le terrain le permet, le corps autorise l'esprit à vagabonder, à partir un peu plus loin, à avancer plus vite que lui. Il en résulte que les ébréchures charnelles et affectueuses disparaissent par la répétition des pas sur le sol qui singe alors le va-et-vient de la lame sur la pierre à eau. C'est très beau, très bien décrit. Et c'est vrai que dans cette émission, on apprécie beaucoup de citer nos auteurs afin que nos auditeurs vraiment puissent bah, déjà apprécier un petit peu et juger du style, et c'est important. Alors, votre préparation, du coup, je voudrais qu'on en parle quand même, qu'on s'arrête un petit peu. Elle est à la fois matérielle. On voit aussi qu'elle est également mentale, et j'allais dire même surtout mentale, mais déjà matérielle. Vous prenez, on va dire, l'essentiel et non le superflu.
Oui, c'est ça. C'est Nicolas Bouvier qui dit le programme était flou, mais l'essentiel était de partir.
Voilà.
Alors certes, il y a une petite organisation parce que on voulait quand même assurer le bien-être d'Omer. Donc en termes de matériel, on lui a acheté une grosse poussette pourvue d'un hamac qui permettait de vraiment reproduire la position physiologique du corps du bébé.
Alors vous n'êtes pas non plus des parents tout fous, hein, comment on peut... Vous êtes au contraire des parents responsables.
Complètement responsables, complètement prudents. L'itinéraire a été fait pour lui. Mmh. On a contourné le massif central parce que les oreilles des nourrissons sont immatures et donc on ne voulait pas aller trop en altitude. Donc vraiment, Omer a été un coq en pâte pendant 4 mois.
On aime à l'entendre. Parce qu'avec un nouveau-né, c'est pas forcément simple. Là, vous avez aussi la
chance. C'est vrai qu'on se fait toute une... Oui, ouais. On se fait aussi toute une image de l'organisation en amont que ouais. Ça peut sous-entendre, mais on ne voudrait pas non plus inhiber des auditeurs qui auraient l'envie de partir, puisque à part, je dirais, la poussette et à part le schéma vaccinal qu'on a respecté avec les médecins,
ça,
etc.
C'est très fort aussi, parce qu'arriver dans la diagonale du vide, trouver des médecins
en amont, parce que c'est aussi un désert médical, effectivement.
Oui. Ah, oui.
Et donc, les rendez-vous ont été pris très tôt. Donc, il avait fallu anticiper sur le lieu où on serait quelques semaines plus tard par rapport à un rythme de marche, somme toute assez régulier. Je pense qu'on marchait à peu près 10-12 km par jour sur 4 mois. Mais il n'y a pas non plus une organisation phénoménale. Il faut partir, épanoui, confiant. Et puis l'abandon, encore une fois, aide à rencontrer sur sa route quotidiennement l'essentiel qui permet d'avancer, de faire un pas de plus, des pas de plus chaque jour.
En ce qui concerne cette poussette, vous lui donnez un nom et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que c'est très sympathique de le faire et puis ça m'a fait penser aux poussins, Alexandre Poussin et Sonia qui, lors de leur périple à Madagascar, à Charette, avaient éprouvé aussi le besoin, à un moment assez rapidement d'ailleurs, de baptiser cette charrette. Et vous baptisez la poussette Nestor. Alors pourquoi Nestor?
Parce que on a commencé, quotidiennement, on marchait, on écrivait et on lisait. Et le premier livre qu'on a lu, c'est l'Odyssée de l'Iliade, pardon, d'Homère, que
c'est pas
je
anodin,
lisais.
Ça. Voilà. On se demande pas après pourquoi vous appelez votre bébé.
Voilà, Homère. C'est ça. C'était important pour nous de le lire, et je le lisais à voix haute en avançant, et je faisais la lecture, pour toute la famille. Et Nestor nous a semblé un bon nom, puisque c'est le vieux maître des chars. Qui est très sage et qui par sa sagesse conseille. Et Nestor, c'est notre poussette a été très sage durant l'aventure. C'était un membre de l'équipage, un membre de l'équipe à part entière. Et sa sagesse nous a menés jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Alors, je parlais donc de préparation matérielle, mais il y a également la préparation mentale qui, chez vous, est fondamentale et on le comprend avec ce que vous avez vécu. Vous êtes quand même, on va dire, à vif peut-être. Et donc, pour tenir le coup au long cours, vous dites, nous allons nous focaliser sur l'essentiel, la famille que nous formons tous les trois.
Oui.
Et ça... Ça va pas vous lâcher, ça va vraiment être.
Non, ça nous a beaucoup nourri. On se découvrait famille sur la route. Et Homère était tout petit, il avait 3 mois à peine. On se découvrait parents. Je découvrais mon mari. Papa est aussi blessé en reconstruction. Enfin, il y avait un mélange de choses assez fort tous les jours. On ne reposait aussi que sur l'hospitalité, ce qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes et donc aussi, in fine, beaucoup de modèles, beaucoup de familles qui nous ont inspirés. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte, on en avait déjà peut-être l'intuition, mais elle s'est révélée sur la route que la famille était l'essentiel. Et c'était important pour nous de vivre ça à trois, de vivre ça en France, à l'heure où on s'imagine qu'il faut aller à des milliers de kilomètres pour vivre une aventure. Pour nous, c'était important de montrer que l'aventure est une histoire de regard aussi, de regard, d'émerveillement, de regard sur les choses.
Et ça, c'est très important aussi dans votre livre.
Ouais. Oui, ouais. Et lorsqu'on franchit la porte de chez soi, chaque jour est une aventure, finalement. Donc, l'aventure à proximité, l'aventure en famille aussi, également, dans le sens où, je vais être un petit peu schématique, mais la vie ne s'arrête pas lorsqu'on a un enfant et on peut continuer à vivre. Et on peut continuer à vivre des aventures. Et voilà, la famille est très importante pour nous.
Alors, vous partez également avec l'idée d'écrire chaque jour.
Oui.
Donc, Romain tous les soirs. Et vous, quand vous le pouvez, durant les tétés.
Oui.
On est très impressionnés aussi. Et alors, justement, je voulais vous citer au sujet de l'écriture. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui écrivez ce texte. Le carnet et la plume sont des béquilles mémorielles desquelles je ne me passe plus. Mon journal, un aide-mémoire sans lequel j'aurais le sentiment de ne jamais pouvoir revivre quelques-uns des gracieux moments qu'offre la vie avant qu'elle ne les emporte irrémédiablement avec elle en se consumant. Nos écrits sont nos archives, nos photographies, nos peintures, notre remède contre l'oubli, notre plaisir de partager de nouveau la table d'un hôte, etc. Voilà, nos journées sont si intenses. Bon, voilà. C'est très, très beau parce que on se dit que là, vous touchez l'essentiel de l'écriture du journal de bord, finalement, d'une façon très poétique. Vous êtes très, très poétique. Vous êtes pleine de poésie, Justine.
Bon, je vais complètement rougir. Je vais être toute rouge avant la fin de l'émission.
Avec le bleu derrière, ça dérape.
C'est parfait. C'est très important pour nous d'écrire. On écrivait déjà quotidiennement avant de partir. On a notre propre journal intime avec Romain, sur lequel on écrit tous les jours. Romain écrit à la plume. Moi, pendant le périple, j'écrivais, comme vous le disiez, comme je le pouvais, les notes et le livre sur mon portable, parfois au moment des tétés à 3 heures du matin quand j'étais réveillée pour nourrir Homère. Mais c'est très important pour nous d'écrire parce qu'on n'a aucunement confiance en notre mémoire,
bien sûr.
D'une part. Et ça permet à la fois de figer des souvenirs, d'avoir le plaisir de pouvoir revivre des choses, de pouvoir vivre deux fois dans la même journée ce qu'on a vécu et surtout de forcer son regard à voir le beau et à ne pas être envahie par tout ce qui peut parfois un peu gâcher la journée, mais au contraire focaliser son esprit, son corps et son âme sur la beauté de la vie. Et c'est un exercice, alors ça paraît simple comme ça, mais d'avoir cette discipline d'écrire ce qui a été beau dans la journée tous les jours, voilà, éclaircit l'esprit, fait du bien au corps et à l'âme, et on s'y astreint quotidiennement.
Merci Justine pour cette belle sagesse de vie, et quelle chance à Omer d'avoir une maman comme vous. Je voulais aussi dire, préciser à nos auditeurs qu'il y a un carnet de photos. Là, on peut voir des photos de la France. Il y a des photos de la petite famille aussi, qui sont tout à fait réjouissantes et qui permettent vraiment de encore mieux partager le chemin avec vous. Et c'est vraiment une très bonne idée. Je ne sais pas si c'est vous ou les éditions Transboréales qui avez pensé.
Alors, ça fait partie. Ouais. Le carnet photo fait partie intégrante de la collection Sillage de Transboréales. On a des photos. Après, l'écriture pour nous est aussi une manière pour nous de photographier. Et donc, c'est des photos assez artisanales.
Oui, mais très belles.
Très naturelles.
Très naturelles, absolument. Alors, je voulais savoir comment vos proches avaient réagi quand même, vos parents.
Contre toute attente, ils nous ont beaucoup portés. Ils nous ont soutenus. Je pense que si le coup du sort n'était pas arrivé, peut-être qu'ils auraient réagi différemment. Mais là, en l'occurrence, nous voyant blessés, assombris par les événements, le fait de savoir et d'apprendre qu'on allait directement se mettre en mouvement, passer à autre chose, focaliser notre esprit sur un projet en particulier, les a beaucoup rassurés. Et je dois dire que on les a beaucoup plus vus, parce qu'ils sont venus marcher avec nous, et on les a beaucoup plus vus pendant ce périple, pendant cette traversée de la France, qu'habituellement à Paris, dans nos vies à 1000 à l'heure. Et donc, ça a retendu, ressoudé les liens, puisque ça nous a permis, cette aventure, de partager des liens multigénérationnels en famille. Et ça a été assez incroyable de vivre ça avec eux.
Et on le voit, on va en reparler, mais effectivement, durant vos rencontres, combien cet aspect-là de la famille, du foyer, des liens intergénérationnels est important pour vous et en soi d'ailleurs. Alors, cette marche, en fait, cette odyssée, hein, on parle d'Ulysse, d'Homère, excusez-moi, je vais vraiment appeler Ulysse.
Ils ne sont pas fâchés, Homère et Ulysse, c'est pas
non,
grave.
Ça va, effectivement, heureusement. donc, elle va devenir cette odyssée qui va elle-même se transformer finalement au fur et à mesure de la marche en marche initiatique et en chemin de guérison. Et on voit d'ores et déjà les bienfaits de la marche qui se font donc très rapidement sentir malgré la pluie, parce que la pluie, elle va être là très très souvent. Évidemment, le spectacle fabuleux de la nature, cette contemplation donc des rives boisées, de la beauté des paysages, les animaux aussi croisés. Il y a un très, très joli extrait où vous croisez une biche qui s'arrête à un échange. Et puis, il y a ces heures de marche, comme vous le disiez, qui vous permettent aussi d'être présents finalement l'un à l'autre, d'échanger et d'être présents à cet instant présent justement auquel finalement on fait si peu attention dans nos vies ici urbaines et finalement qui vont très très vite. Vous dites « les routes sont notre asile, la marche notre refuge ». C'est assez paradoxal.
Dans le tourbillon que représente cette aventure, dans la non-régularité des endroits où nous restions, finalement, la route était notre habitude. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, mais tous les jours, ce qui ne différait pas d'un jour à l'autre, c'était la marche, c'était le fait d'avancer. Et en ça, la route était un refuge. C'était le lieu où l'on se retrouvait tous les trois, ce qui nous permettait de discuter ensemble des échanges de la veille, de discuter très peu pourtant de l'avenir. On pourra peut-être y revenir, mais c'est pas une question qui nous a taraudé l'esprit pendant les 4 mois. Et la marche a des vertus extraordinaires pour le corps, pour l'esprit, pour le retour veineux, des choses aussi,
par exemple,
aussi triviales que ça.
C'est important pour
nous. Mais la lenteur de la marche, finalement, nous permet d'être présent à la vie, présent à l'autre, présent au monde, telles que nous ne l'étions pas finalement dans nos vies parisiennes. Et le délestage ne s'opère peut-être pas immédiatement. Enfin, il faut quelques jours, quelques semaines de marche, mais il y a d'abord, c'est vrai, et on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, un délestage physique, matériel, et ensuite s'opère un délestage, une fois que les semelles sont un peu éculées, un délestage vraiment intellectuel, et on va à l'essentiel, et cet essentiel passe par une contemplation du moment présent qu'on ne ressent, je crois, que dans ces moments où l'on marche.
Et alors, ces moments où l'on marche, puis il y a les moments aussi où il faut s'arrêter, il faut dormir, et alors même, bien que vous ayez pris avec vous une tente, là on va dire que le mauvais temps, la pluie a été bénéfique, puisque c'était compliqué avec un bébé, on le comprend, donc vous avez dû aussi demander finalement l'asile, ou en tout cas l'hospitalité plus exactement, et là, il va y avoir vraiment une véritable chaîne d'hospitalité hein, qui va se dérouler, et je crois vous avoir entendu dire aussi que finalement l'aventure en soi, c'est de ne pas savoir chez qui on va dormir le soir.
Oui, alors on est devenu, je crois, complètement addict et accro à cette rencontre imprévue. Au départ, comme vous
le sent, hein.
Oui. Au départ, comme vous le soulignez, on pensait vraiment dormir dehors. On partait aussi avec nos propres biais. Nos propres biais, c'était de quitter Paris, d'aller vers les steppes, d'aller vers le silence, d'aller vers le désert. Là, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. On a dû apprendre à demander, ce qui n'est pas une chose évidente et facile. Mais passé cette première appréhension, ça a donné lieu à de si belles rencontres qui nous bouleversaient et nous touchaient tellement chaque jour que on cherchait finalement, on recherchait pleinement cette hospitalité tous les jours pour ce qu'elle pouvait vraiment nous apporter en termes de richesse humaine.
Je vous lis encore, je vous cite. « Pour l'heure, nous n'en revenons pas de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous apprenons. Nous ne nous attendions pas à ce que cette marche prenne cette tournure. Toutes ces rencontres, la richesse humaine, la bonté des gens, tout cela nous émeut beaucoup. » C'est comme si nous redécouvrions notre pays, non pas qu'on eût la prétention de le connaître, mais bon. Et puis, l'humain se révèle inépuisable et très surprenant. Les rencontres font beaucoup de bien. Et je trouve ça vraiment magnifique que vous écriviez cela après avoir été si blessée par l'humain aussi.
Oui, l'humain est un drôle d'animal.
Oui.
Et je pense que cette marche, de manière accélérée, puisqu'il ne s'agit que de 4 mois, nous a... Alors, je vais peut-être pas employer le terme de guérison parce qu'on guérit d'une maladie et on n'est pas parti malade. On est parti blessé. Mais cette marche, de manière accélérée, nous aura permis de refaire confiance à l'homme, à l'humain, à l'être humain. Et parce que cet homme, et encore une fois, ce drôle d'animal qui nous avait vraiment... couché, mis à terre, terriblement blessé, est aussi celui qui, paradoxalement, nous aura apporté beaucoup d'amour tous les jours et aura couturé nos blessures, amoindri nos plaies et déposé voilà, comme un pansement sur l'âme quotidiennement.
Alors, avant de vous faire parler un petit peu plus de ces rencontres, je voudrais juste signaler à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du mercredi 22 avril, dirigé par Pascal Maurer, et que j'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec Justine et Romain Bresse au sujet de leur aventure, leur longue marche avec leur bébé de 3 mois sur la diagonale du vide, une odyssée qu'ils ont relatée dans un ouvrage intitulé Une famille en chemin, sous-titré La diagonale du vide, publié chez Transboréal. Cette émission est préenregistrée, donc je ne pourrai lire en direct vos messages, mais surtout n'hésitez pas à me les faire parvenir, ou vos questions d'ailleurs, soit au secrétariat, donc par téléphone au 01 46 51 00 85, ou bien par courriel courtoisie@rc.fr. Voilà. Et reprenons donc notre entretien au sujet de ces personnes qui vous ont offert l'hospitalité. Ce qui est marquant, c'est la diversité de ces personnes.
Oui, et c'est en ça aussi, je pense que le voyage a été initiatique, différentes et diverses en termes d'âge, puisque parfois nous logions chez des étudiants. Donc là aussi, ça nous a beaucoup touchés. Voilà, des étudiants de 20 ans qui nous accueillaient, parfois des boursiers, ce qui donne foi aussi en l'homme et en l'humanité
Et en l'altruisme.
et en l'altruisme. Des nonagénaires aussi parfois. Donc là, encore une fois, c'était drôle de voir ces personnes âgées discuter, porter aux mères parfois, de voir finalement deux êtres aussi fragiles qu'un siècle séparait entre voilà, une vie qui a presque 100 ans et puis ce petit bout de vie qui était aux mères qui avait 3-4 mois. Ça a donné lieu à des échanges qui ont été, oui, voilà. Extraordinaire. Divers aussi en termes de, je dirais, de métier, de classe sociale, de tempérament, de personnalité. On a pu loger chez des maires, chez des agriculteurs, chez des botanistes, chez
Viticulteurs
des
aussi,
viticulteurs,
maison
exactement.
de maître, quatre générations
Oui,
à
des
table.
nobles, des bourgeois, chez des moines, chez des sœurs,
Aussi,
au sein
oui, on
d'un
va en
centre
reparler de ça,
équestre.
oui,
Bon,
aussi, ouais. Donc très,
extrêmement
très, très varié.
très divers, très varié.
Et en fait, on voit que ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que vous restiez si peu de temps, eh bien, force à dire l'essentiel et des
Oui.
morceaux de vie, et ces personnes se livrent finalement plus facilement, peut-être.
Tout à fait. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de règles avant de partir, mais l'une d'entre elles était d'avancer tous les jours pour justement ne pas abuser de l'hospitalité qu'on voulait bien nous offrir. Une nuit, c'est pas la même chose que deux. Et le contrat un petit peu tacite avec nos hôtes était voilà, de repartir le lendemain. Et
Et ça,
donc,
il le comprenait très bien, ou il y en a
oui,
qui voulaient
alors
vous garder un petit peu.
certains nous proposaient de rester plus longtemps, mais vraiment, on ne souhaitait pas abuser de leur générosité puisque on voulait qu'ils gardent aussi cette fraîcheur pour accueillir aussi d'autres
D'autres.
personnes, ne pas être ni lassé
Oui.
voilà de quelqu'un qui resterait plusieurs jours. Donc on avait décidé de voilà d'avancer comme ça tous les jours. Et alors quelle était votre
Alors, ma question, c'était en fait au sujet de ces morceaux de vie qu'il vous livrait
voilà,
justement, les
c'est
concernant,
ça. Et
et qui sont
donc
très émouvants
et
d'ailleurs,
qui, et qui
et
sont voilà.
instructifs pour vous aussi.
Oui, tout à fait. Donc nos hôtes savaient qu'on allait partir le lendemain et ça donnait lieu à des échanges extrêmement intenses, puisque moi j'ai absolument rien et j'aime beaucoup les questions sur la météo, la pluie et le beau temps, puisque ça permet de commencer l'échange. Mais là, très vite, on passait sur des choses extrêmement profondes. Par exemple, c'est comme si tous les soirs, on se disait, bon, quelle a été la chose la plus importante que vous ayez vécue de toute votre vie? Et donc, on en arrivait à la substantifique moelle de ce qui avait pu bouleverser, changer un individu. Et ça donne lieu à des échanges. Voilà,
Très fort et qui vont vous
stupéfiant.
porter.
Oui.
On imagine.
Oui.
Et il y a notamment ce couple, donc vous parliez de nonagénaire, les Poncignons,
Oui.
en Côte d'Or, ils m'ont beaucoup marqué. Ce sont vraiment, vous écrivez, ce couple de vénérables aventuriers.
Oui. Leur vie est une aventure. Ils sont incroyables. Ils ont bientôt, je crois, 90 ans, tous les deux. Ils ont une force, un courage. C'est le type de couple qui nous fait dire que les années ne représentent pas ni la vieillesse. Tout est dans la tête, je crois. Ils nous ont beaucoup inspirés. Aujourd'hui, ce sont des modèles. Ils nous ont fait rencontrer beaucoup de personnes. Ils nous ont inspirés pour l'engagement qu'ils ont à la fois sur leur terroir, et ils ont à la fois beaucoup voyagé durant toute leur vie, et leur vie représente une aventure. On les avait rencontrés avant de partir, et ils nous ont concocté un programme, mais vraiment de préfet en Côte d'Or. Et à 90 ans, presque 90 ans, ils nous ont donné une leçon de vie et de, encore une fois, de fraîcheur qui est remarquable. Je pense que ça nous est arrivé avec Romain de côtoyer des personnes qui ont 30 ans et qui nous semblent absolument vieilles et fatiguées par la vie. C'est tout le contraire du couple Ponsignon qui a une pêche d'enfer à 90 ans.
On aimerait beaucoup les rencontrer. Hein.
Ah oui, bon ben, je pense qu'ils seraient ravis de venir.
Et vous écrivez d'ailleurs un couple éprouvé par maint défi, sans jamais craquer, hein, qui force votre admiration. Et c'est vrai que... Alors, et en plus, quand vous êtes chez eux, vous apprenez votre licenciement aussi à votre tour.
Oui, j'avais une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est vrai que lorsque j'apprends mon licenciement, il faut que je retourne à Paris. Il s'avère que ce couple, Ponsignon, avait aussi affaire à Paris,
c'est
ce qui est quand même assez...
providentiel.
assez providentiel, voilà, appelons-le comme on veut, mais assez providentiel. Et donc, on est tous allés voilà, me faire licencier à Paris à 5 dans la voiture.
Qui vous a permis de vivre, je pense, là, de façon quand même plus... En tout cas, moins désagréable.
Voilà, assez... je pense qu'il y avait un certain... un certain détachement, un certain soulagement aussi, puisque ce licenciement était attendu.
Et clarifier les choses aussi pour vous dans votre esprit, je pense.
C'est ça. Laisser les choses à Paris, reprendre l'aventure ensuite en Côte d'Or, là où elle s'était arrêtée 48 heures plus tôt. Et le fait d'avoir vécu ça avec ce couple Ponsignon, je pense, m'a beaucoup aidée personnellement et nous a aussi beaucoup aidés et accompagnés en famille.
J'imagine. Et pour revenir justement au fait que vous avez bénéficié finalement de ces accueils gracieusement, hein, donc que le gîte et le couvert vous étaient offerts, et à un moment forcément vous vous dites mais nous on reçoit énormément, mais finalement qu'est-ce qu'on leur apporte ?
Oui, ça c'est une question qui revenait tous les jours et qui peut sembler frustrante puisque on ne peut pas rendre, surtout quand on est, matériellement, quand on s'est déplacé de manière très légère, rendre immédiatement.
On a oublié d'évoquer l'aspect financier, mais vous étiez parti, j'imagine, avec peu de moyens.
Oui, tout à fait. C'était avec une certaine forme d'ascèse, même volontaire, qui nous a fait aussi beaucoup de bien.
Et donc c'était aussi oser avec un bébé. Et en même temps, on se dit, excusez-moi, je vous interromps, mais on se dit que peut-être d'autant plus avec le bébé, avec votre bébé, ça a dû quand même toucher les gens.
Alors, ça les a touchés, c'est vrai, mais certaines personnes nous ont quand même dit que s'il n'y avait pas eu le bébé, ils nous auraient accueillis quand même chez eux. Parce qu'ils avaient cette disposition à l'ouverture, à l'accueil, à la rencontre. Mmh. Et finalement, bébé ou pas, ils nous auraient accueillis chez eux.
Mais c'est très beau. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes en France qui sont très accueillantes et il y a beaucoup de gens bien finalement.
Oui, oui, oui. On pense sans cesse
dans
à l'hospitalité
villes,
à l'étranger.
Oui, oui, oui,
mais
c'est vrai.
La France est un pays incroyablement hospitalier. Alors, peut-être qu'il y a une certaine scission, même si tout n'est pas si binaire, mais entre les grandes villes comme Paris et les provinces, parce que Paris est une ville particulière et particulièrement abrasive aussi. La disposition même des immeubles fait que on ne peut pas forcément toquer chez quelqu'un et puis personne va vous ouvrir derrière le digicode. Enfin, et le rythme de vie aussi. Enfin, sans vouloir lancer la pierre, d'ailleurs, on faisait partie de ces couples qui ne faisaient travailler finalement et rentrer chez eux complètement lessivés par une journée de travail. Et donc l'esprit est aussi moins disponible à l'ouverture et à l'accueil et à ce besoin de se reposer. La France est un pays très hospitalier et tous les jours, nous avons rencontré des foyers, des familles. Quand ce n'était pas chez un particulier, c'était la mairie qui nous ouvrait la salle d'un conseil municipal, par exemple, ou alors une paroisse qui nous faisait dormir au sein de la paroisse dans une salle. Enfin, il y a toujours eu quelqu'un pour nous ouvrir une porte. Et les deux seules fois, puisque c'est arrivé où nous avons sorti la tente, c'était dans une église, puisqu'on nous avait ouvert les portes d'une église, mais qui était en travaux. Et donc, on a déplié la tente pour éviter de dormir sol avec la poussière. Et la deuxième fois, c'était dans le jardin d'un particulier du côté d'Avallon. La terre était très bien pour poser la tente.
Mais alors, dormir dans une église, c'est quand même, dans une tente, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Oui.
Ça vous a fait quel effet, ça?
C'est très particulier. Ouais.
Vous avez du coup, vous êtes croyant, vous avez la foi, vous êtes un peu loin, peut-être romain, plus loin.
Je pense que le titre de notre ouvrage résume bien notre rapport à la foi, c'est-à-dire qu'on continue de cheminer tous les deux. Voilà, à notre niveau, on chemine, mais force est de constater qu'on a eu le sentiment régulièrement, je veux dire, d'être porté. Durant notre aventure, on évoquait tout à l'heure cet aller-retour à Paris. Au moment où j'ai ce besoin, où je suis convoquée à Paris, ce qui est quand même assez extraordinaire. Après, on appelle ça le hasard, le destin ou la providence, c'est selon. Mais on a été porté durant notre aventure et moi, j'y crois beaucoup.
Alors, d'ailleurs à ce sujet, question paysage, les clochers, les églises, bien sûr, sont très très présents sur votre chemin. Et il y a notamment l'abbaye de Sept-Fonds où vous allez pouvoir aussi loger avec cette sérénité de lieu, l'esprit qui est réduit à sa pensée à l'essentiel. Et ce que Romain apprécie d'ailleurs, hein, ça je l'ai noté, il y a des rencontres avec un ermite, le père Elias, l'abbé Molin. Vous êtes reçu aussi chez les sœurs de Saint-Jean et là vous vivez leur gaieté, leur chaleur, leur don d'elle-même. Et là, je voudrais citer Romain, j'ai le temps, je voudrais le citer parce que venant justement de quelqu'un qui est plus cartésien, j'ai trouvé sa réaction tout à fait intéressante. Il écrit « Ils évoluaient, donc toutes ces personnes, hein, donc l'ermite, les sœurs, etc. Ils évoluaient avec un charisme que mon cartésianisme ne peut ni expliquer ni ignorer. » Non pas un charisme qui écrase, qui sublime, mais une inspiration douce à suivre leur exemple. Leurs yeux n'étaient que bonté, pas le vernis de fausse bienveillance dont notre époque se pare, mais la grâce. Oui, la grâce simple et profonde, qui n'a point besoin de profusion matérielle ni de confort outrancier pour s'exprimer. Et là, on sent vraiment le cœur aussi de ce patrimoine français religieux, de ces clochers, de ces calvaires aussi, que vous avez pu bien sûr voir tout au long, et qui apportent cet aspect sacré aussi à notre territoire et à nos terroirs.
Oui, l'oublie, je pense, trop souvent, et l'évidence nous est apparue seulement dans l'Allier. Donc, c'est pour ça que je parlais du temps que les semelles mettent à marcher, à s'éculer un petit peu. On ne comprend pas tout de suite, on est un peu lent du cerveau. Et on a compris dans l'Allier, donc quand même après plusieurs semaines de marche, que une des choses qui ne change pas, qui ne passe pas, c'est cette vue qu'on a sur, alors, d'une part, l'hôtel de ville, bien sûr, mais aussi sur le clocher, dans chaque village. Ça nous semble tellement évident de le dire comme ça, mais il faut rappeler les évidences.
Et d'autant que le clocher, on le voit de loin.
Oui.
On n'a pas besoin d'être déjà arrivé comme la mairie. Clocher, ça, c'est vraiment le point de référence.
C'était une référence, une boussole vers laquelle on tendait et on marchait chaque jour. Et vous évoquiez aussi, juste avant, voilà, ces rencontres touchante, sacrée qu'on a pu faire, qui n'ont pas ce besoin de matériel pour se montrer et puis pour être belle tout simplement. Tout au long de notre traversée, on a pu voir des modèles quelque part qui ont été inspirants. Je pense aux sœurs notamment. On s'interrogeait régulièrement avec Romain pour se dire mais comment font-elles, quel est leur secret, quelle est cette pourquoi sont-elles si gentilles, pourquoi sont-elles si généreuses, pourquoi c'était des témoignages qui se passaient encore une fois de mots. On était dans l'observation et elles témoignaient par leur foi. On l'a compris après. Et c'est là aussi que le travail d'écriture permet de se rendre compte de ce type de choses et de cette analyse. Mais finalement, le point commun aussi entre tous ces modèles, c'était cette foi en la vie. Alors, encore une fois, on appelle ça comme on veut. Cet amour, c'est plus universel. C'était ce fameux point commun qui nous bouleversait et nous nourrissait et qui ont rendu cette aventure sacrée.
C'est très beau comme vous l'exprimez. Je voudrais, alors on revient sur le côté plus terre à terre, mais est-ce que vous pourriez, parce qu'on se demande, on se dit, mais finalement, parce que vous racontez bien sûr toutes vos rencontres, votre cheminement, mais est-ce qu'il y avait une journée type pour vous suivre un petit peu? Comment se passait finalement chaque journée?
Alors je pense que on partait vers 9h du matin, à peu près, le temps de se mettre en route, etc. On avait petit déjeuner avec nos hôtes, généralement, c'était le dernier échange, les adieux, et puis on partait pour à peu près 3 heures de marche. Et là, on se posait pour la pause déjeuner, avec le réchaud, la popote. Souvent, c'était très sommaire ce qu'il y avait au niveau des repas. Soit on avait rencontré un fromager et puis on grignotait du fromage ou de la charcuterie. Ou alors, les jours de disette, c'était plutôt des flocons d'avoine.
Ah bah oui, très
mélangés.
Vous en mangez encore repas... Vous n'avez pas été dégoûté?
Alors, Romain continue. Romain va se transformer en cheval au bout d'un moment, je pense. Mais non, moi j'ai arrêté. Et donc, ensuite, on repartait pour aller 2 heures de marche. Et on aimait bien prendre le temps vraiment de rencontrer nos hôtes. Donc, on s'annonçait vers 15-16 heures selon la disponibilité aussi des hôtes qui voulaient bien nous accueillir. Et ce qui nous permettait d'approfondir avec eux, d'apprendre à les connaître, de passer une première partie de la soirée ensemble, le dîner également ensemble, et puis ensuite d'aller se reposer pour se quitter le lendemain. Donc c'était beaucoup à la fois de marche, de rencontre aussi avec l'autre, de lecture et d'écriture.
Et d'écriture. En fait, vous avez réussi quand même à arriver à ce que tout fonctionne.
À créer une petite routine.
Voilà, oui. Et à ce que tout s'imbrique bien comme il faut. Et on est assez admiratif quand même de cela. Et puis, on parlait donc de cette présence finalement à l'instant. Et vous le dites vous-même, vous vous réjouissez. Alors, ça peut paraître puéril, mais non, ça ne l'est pas, bien sûr. Vous vous réjouissez des cadeaux de la journée. Et il y a notamment un moment avec une tasse de café. Et si vous pouvez nous la raconter brièvement, mais...
Alors, il y a... La tasse de café, pour un marcheur qui se confronte aux éléments et à la rudesse aussi de ce que ça peut engendrer parfois, le mauvais temps qui ne nous a pas quittés pendant 3 mois, le vent, etc., a des allures de coupe de champagne. Parce que c'est, je pense, pas tout ce qu'on attend, mais cette gentillesse, ce don... Et le réconfort d'une simple tasse de café vraiment nous a nourris. Et donc, je pense que vous faites référence à ce moment où effectivement il pleuvait et où j'avais en plus besoin d'allaiter Omer. Et on nous a ouvert une porte, on nous a mis au chaud, au coin du poêle, posé sur un canapé. Et on nous a tendu cette tasse de café qui était merveilleuse à ce moment-là de notre vie. Et qui devient un luxe lorsqu'on vit très simplement.
Alors, face à ces beaux cadeaux de la journée, ces beaux moments, il y a quand même des difficultés. Mais on se dit, bon, heureusement, vous n'avez pas eu quand même de trop grosses mésaventures. Bien sûr, là, vous parlez de, je pense, peut-être l'essentiel de ces mésaventures, c'était le mauvais temps. Donc, la pluie, 3 mois quand même sur 4, quand on est... à pied, poussette, bébé, ça veut dire aussi être trempé, ça veut dire, et puis des conditions de marche quand même compliquées. Il y a bien sûr l'annonce de votre licenciement tout de même. Il y a aussi un épisode, peut-être qu'on peut relater, il s'agit de la roue, de la poussette, donc de Nestor qui va vous lâcher dans le Haut-Morvan alors que c'est perdu, il n'y a personne. Et alors là, Romain, on sent qu'il panique. Et vous êtes très confiante.
Je suis...
Et l'impensable va se... Justement, ce qu'elle disait.
Mon optimisme ne repose à chaque fois sur rien de concret, mais je suis très optimiste. Dans la...
Quel bon caractère. Donc,
effectivement, en plus, on se faisait, enfin, Romain surtout, se faisait toute une histoire du Morvan. On nous avait prédit les plus grands maux dans le Morvan. Il fait froid, vous n'allez. Homer va choper des otites. En plus, il y a des loups. Enfin, vraiment, on ne rentrait pas complètement serein dans le Morvan.
On l'imagine, ouais.
Et là, Nestor nous lâche. Vraiment. La roue voilà, est crevée. Et je disais à Romain, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout ira bien. Ça va s'arranger. Et il s'avère qu'une demi-heure plus tard, on arrive dans un village, Brassy, et qui fêtait sa brassiclette. C'est-à-dire qu'on arrive en pleine fête du vélo, où il y avait des centaines, enfin il y avait 600 cyclistes qui nous attendaient et qui nous proposaient des rustines. Donc là, encore une fois, on appelle ça comme on veut, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un moment qui nous a marché et qui montre le cocasse de l'existence et qui montre aussi que quand on s'abandonne complètement à l'existence, il y a toujours aussi une solution. Une demi-heure après, Nestor était réparé et on repartait voilà, complètement serein.
Alors, j'adore vous entendre parce que ça vient tellement en résonance de notre précédente émission sur l'abandon spirituel que là, c'est vraiment la mise en pratique et voilà, et abordable pour tout un chacun finalement.
Exactement.
Que l'on croit, que l'on ne croit pas, peu importe. Mais c'est une petite pépite aussi, votre livre, hein, je dois le dire. On y pioche plein de choses tout à fait importantes aussi, pour, même pour notre vie à nous, en tant que lecteur. C'est à la fois très près des choses, très près des gens, très près du concret, avec plein de poésie, comme je le disais. Là, je fais une petite incise, mais vous arrivez vraiment de façon très naturelle à faire passer l'essentiel. En tout cas, ce que j'apprécie aussi, oui, c'est que vous vivez, vous le dites à un moment du livre, une école buissonnière de l'aventure chaque jour. Et là, je vous cite aussi, parce que ça, c'est savoureux. Donc, à ce registre-là de l'école buissonnière de l'aventure, elle se vit en famille et en France. Son contenu est pluridisciplinaire et met l'accent sur les savoirs pratiques. Ainsi, à La Roche-Millet, nous avons passé un après-midi à confectionner, aidé par des botanistes, un herbier des plantes comestibles les plus communes. Les lacunes laissées par 50 grandes écoles sont progressivement comblées depuis que nous avons fait notre entrée à l'école de la vie il y a un mois et demi. Et on voit que ce savoir sur les plantes, cet herbier va vous servir en plus, va être tout à fait utile par la suite.
Tout à fait, pour agrémenter les flocons d'avoine de diverses salades, apporter un petit peu de verdure.
Alors, oui, le temps passe vite, mais nous arrivons tranquillement à la fin de votre aventure. Ce que je trouve aussi, ce que je voudrais dire avant qu'on termine, c'est d'abord aussi, donc on a bien vu que vous évoluez intérieurement, que votre regard change, sur vous aussi, Romain, sur vous, et sur vous, sur Romain. Romain écrit quelque chose de très beau à votre sujet. Il dit « 3 mois d'une vie dense comme jamais, on fait d'elle une femme, une mère ». Voilà, notamment, et c'est très fort. Et puis, bien sûr, en tant que parent, avec Homer, qui est, on le comprend, votre moteur, qui vous rend puissant, qui vous donne aussi la force, le courage. Et Homer vit très bien l'aventure, en fait, dès le départ, il n'y a aucun souci. C'est un bébé de 3 mois, alors que souvent les bébés posent plein de problèmes. Là, lui, on dirait que c'est le bébé parfait, qui a compris et qui
donne des leçons à ses parents.
Exactement. Ça, c'est formidable. Il est confiant, ouais, il est confiant à la vie. Et puis aussi, ce qui change surtout, écrit Romain, c'est que Justine et moi avons le sentiment que que toute heure consommée est utile. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a plus de moment perdu.
Oui.
Que chaque moment, chaque instant a sa signification et son importance.
Oui. Et ça, je trouve qu'on ne le rencontre qu'en marchant. Parce que dès qu'on est pris et happé par notre quotidien, vient toujours le moment où il y a des tâches qu'on doit faire, mais qu'on aimerait ne pas avoir à faire. Et durant cette aventure, chaque seconde était, j'ai pas envie de dire utile, parce qu'on rentrerait dans un utilitarisme.
Oui, bien sûr.
Mais chaque seconde était importante et servait notre famille, dans le beau sens du terme servir. Et était loin de nous, à ce moment-là, peut-être des heures passées devant un écran, à faire des choses futiles qu'on aurait aimé ne pas avoir à faire, des présentations, peut-être trop de courriels. Je pense que tout le monde voit un petit peu de quoi je veux parler.
Vous dites
c'était
d'ailleurs
très
à un
agréable.
Moment, vous dites finalement, cette épreuve est finalement quelque chose de bénéfique, parce que ça nous permet de vivre cela qu'on n'aurait peut-être jamais vécu sinon, ou en tout cas... Vous avez une vue positive, un regard justement positif.
Oui, on essaie d'avoir un regard positif sur la chose. C'est comme ça qu'on l'a vécu, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Et oui, notre vie a été complètement chamboulée, mais on a décidé aussi d'en faire une aventure bénéfique. Et je pense qu'elle nous a beaucoup nourris, et on se répète souvent qu'on a gagné peut-être 10 ans de maturité. Ouais. En l'espace de 4 mois. Je pense qu'on a gagné beaucoup de temps.
Alors, vous arrivez donc à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, vous n'avez jamais douté ?
Si. Oui, mais je pense que c'est normal. Il n'y a pas d'aventure sans doute, sans sueur. Enfin, c'est normal d'avoir des interrogations, et le à quoi bon nous a guettés tous les jours.
Alors, vous écrivez à la fin, c'est très joli aussi. « Pendant 4 mois, nous vécûmes dans le cœur des Français, au cœur de leur foyer. Grâce à eux, nous ne fûmes jamais isolés. Nous reprîmes confiance en la vie et en notre prochain. Grâce à eux, nous fûmes aimés et surtout capables d'aimer en retour. Grâce à eux, la lueur dans les yeux de Romain, que je croyais disparu, revint danser un soir, puis 2 soirs de rang, et s'installa de nouveau farouchement au plus profond de son regard pour de bon. » Alors, cette aventure, un marchepied vers d'autres aventures ? Qu'êtes-vous devenu ?
Je pense que la ligne d'arrivée est un mirage. le pied qui nous permet d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port avec toute son inertie nous emmène vers une autre aventure, et nous sommes repartis 1 an plus tard, toujours un 1er avril, traverser le Caucase à pied de la Géorgie à l'Arménie. Nous sommes repartis également marcher dans les Ardennes, sur le chemin des Saints Ardennais, une petite dizaine de jours. Et puis, nous projetons toujours de repartir. Nous avons d'autres projets. Et pour l'heure, on s'est arrêté un temps dans le Pays Basque, en Soule, à Mauléon-Lichard, pour des reconversions professionnelles.
Très bien. Et j'imagine que toutes ces aventures donneront lieu certainement à des récits.
On aimerait.
Nous aussi. Cher Justine, grand merci vraiment d'être venue nous témoigner de ce parcours incroyable en famille, de nous avoir vraiment redonné la joie aussi dans la vie, la foi dans la vie. Je vais maintenant m'adresser à Romain, votre mari, parce que je souhaiterais en fait l'interroger sur la réalité de la diagonale du vide et puis de la grande diversité des terroirs français, car il a des choses très intéressantes à nous dire à ce sujet. Mais en attendant, je vous propose un extrait musical d'une chanson que vous avez choisie. Alors, une très ancienne chanson. Enfin, on n'a pas beaucoup, malheureusement, d'extraits, mais c'est une chanson donc de Jacqueline Dulac. Hein.
Dulac, ouais. Effectivement, qui s'appelle Donna Donna. C'est une berceuse que je chantais tous les jours, quotidiennement, à Omer lorsqu'il pouvait pleurer, et sur les routes. Et elle nous a beaucoup accompagnés pendant notre traversée de la France à pied.
Alors, on va l'écouter. Merci beaucoup, Justine.
Merci infiniment, Pascal.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêver d'être un homme. chaque soir il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur. Il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait et il se souvenait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Je pense à ce petit garçon, ce petit garçon qu'il était.
Chers auditeurs, donc je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, du mercredi 22 avril, dirigé par Pascal Maurer. Mes invités de ce jour sont Justine et Romain Bresse, et avec eux, nous évoquons leur aventure familiale avec leur bébé de 3 mois et à pied sur la diagonale du vide, un chemin auquel ils se sont abandonnés et qu'ils ont relaté dans leur ouvrage qui nous présente aujourd'hui Une famille en chemin, édité par Transboréal. Je vous rappelle que cette émission étant préenregistrée, eh bien je ne pourrai malheureusement lire vos messages en direct. Alors, Romain Bresse, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, après Justine, on a le grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup déjà d'avoir trouvé un peu de temps à m'accorder, tant je sais votre emploi du temps en ce moment très chargé.
Et je dois... Non, vraiment, merci à vous surtout de votre considération portée à notre petite escapade familiale.
C'est plus qu'une escapade, c'est vraiment un chemin et un chemin très instructif. De toute façon, nos auditeurs s'en sont déjà aperçus avec le bel échange que j'ai eu avec Justine, votre épouse. Et donc, je souhaiterais maintenant m'entretenir plus particulièrement avec vous au sujet de la diagonale du vide. Pardon, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et auquel d'ailleurs vous avez consacré la postface de votre ouvrage en retranscrivant votre échange avec le géographe Christophe Guilluy. Et c'est un passage d'ailleurs tout à fait éclairant que je conseille à nos auditeurs de lire à la fin de votre ouvrage. Alors, que signifie tout d'abord cette expression pour le moins péjorative, Romain Bresse ?
Alors, c'est une expression dont on situe mal la source, en fait. C'est assez difficile de savoir vraiment d'où elle vient précisément, mais toujours est-il qu'elle a été, à la mode, on va dire, dans les années 80. Plusieurs géographes, démographes l'ont utilisé dans leurs rapports pour qualifier cette langue de territoire qui s'étend donc des Ardennes aux Pyrénées, qui représente quand même un gros tiers du territoire de français. Alors, diagonale du vide, pourquoi ? Parce que cette diagonale donc était moins connectée à la globalisation, était plus frappée par la désindustrialisation, on avait une fuite des services publics et surtout une démographie vacillante, sinon déclinante en fait. Et en fait, on retrouve cette expression jusque dans certains documents officiels de l'administration, c'est notamment la DATAR qui l'utilise justement dans les années 80. Et en fait, c'est une expression qui, Justine et moi, nous a fascinés de manière un peu dans deux sens, savoir en effet ce caractère très péjoratif, mais aussi la poésie qu'il y a dans cette dénomination. Parce que voilà, le vide, c'est déjà, ça appelle à être rempli par quelque chose. Rien ne reste indéfiniment vide si ce n'est l'espace. Et là, quand même, on parle d'un, du centre d'un pays. Donc, c'est aussi les frontières qu'on amène à dépasser. Mais il y avait des sentiments très mitigés et nous la repensions de temps à autre avant de partir de Sedan, dans notre vie d'avant, je dirais. On avait l'habitude comme ça de partir quelques week-ends pendant nos congés, randonner déjà en autonomie dans ces terroirs pour comprendre en fait quelles étaient les réalités de cette diagonale du vide. Expression qui, en effet, a retenu plus que la poésie chez nous, a suscité plus que la poésie, a suscité, je dirais, oui, un certain sens péjoratif.
Bien
Euh,
sûr.
c'est très. Voilà, c'est quand même. Alors aujourd'hui, ça s'appelle la diagonale des faibles densités, c'est un peu moins poétique. Bon, diagonale du vide, ça avait au moins le mérite d'appeler à d'avoir un certain souffle. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de la découvrir et à travers elle, finalement, mieux découvrir notre pays.
Alors, ce que j'ai retenu, et on terminera, et après on arrivera réellement à votre expérience à travers le chemin, mais toujours en référence avec cet échange avec ce géographe, donc Guy Louis, il évoque le fait que c'est une diagonale qui représente quand même le tiers de la France. Donc, ce n'est pas rien, et on découvre en le lisant que la majorité de la population française vit en province et hors des grands espaces urbains, contrairement à certaines idées reçues. Et puis j'ai retenu aussi, et je trouvais ça tout à fait intéressant, c'est que au-delà d'être assez une représentation subjective finalement, hein, de cette diagonale du vide, qui permet de dessiner, de tracer une carte somme toute factice et technique, eh bien il écrit, et je pense que si vous le retranscrivez, c'est que vous êtes entièrement d'accord, qu'elle permet cette diagonale du vide finalement, ce pas de côté, qui est liberté finalement. Et surtout, reconnexion au réel qui fait retrouver une certaine vie morale et un continuum qui permet un continuum culturel.
Oui, ben alors, oui, alors là, on pourrait rester, je pense, des dizaines de minutes, sinon des heures,
Non.
à commenter ces propos qui sont très justes et très très forts, très lourds en sens. En fait, oui. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais là, on a retrouvé en effet déjà la France périphérique. C'est amusant parce que quand on a échangé avec Christophe Guilluy. Alors, on avait lu la France périphérique, mais en fait, on a pris conscience, peut-être qu'on avait lu en diagonale,
C'est le
justement, à
cas de le
l'époque,
dire.
on a pris conscience en lui parlant qu'en fait, selon lui, la France périphérique, ce n'est pas la France des campagnes, c'est la France des villes. C'est tout le jeu, en fait, sémantique, enfin, c'est toute l'intuition que développe Christophe Guilluy, c'est qu'en fait, la France périphérique, ce n'est pas la diagonale du vide, ce n'est pas les campagnes qui, comme vous le disiez, concentre la majorité de la population française, mais bien les métropoles, où en effet on trouve eh bien, la globalisation. Sans aucun jugement de valeur, mais en effet on trouve la globalisation, on trouve le temps qui passe très vite, on trouve les notifications, on trouve le brouhaha, on trouve le magma, on trouve le champ des possibles infini, et tout ce que voilà, toutes les promesses finalement de notre époque. Dans la diagonale du vide et en France, dans la France rurale, on trouve peut-être un peu moins ça. C'est Stendhal qui écrivait dans Le Rouge et le Noir que tout prend un peu plus de temps à la campagne. Et donc c'est vrai qu'on cette distance en fait nous a permis de ralentir, en tout cas de retrouver en effet un certain continuum tant géographique que culturel que même historique entre un pays, une population, entre une histoire et une géographie, tout simplement. Parce que, chemin faisant, je vous donne un exemple très, très simple, mais on a renoué avec ces vieilles provinces, ces vieilles provinces qui datent parfois du Moyen-Âge, voilà, que l'administration, que l'évolution naturelle d'un pays, en tout cas, que les départements, que les régions cantons, on peut un peu effacer, voilà, le franc-alleux, le bourbonnais, bien sûr, le
Comme ça sonne
Béarn,
bien en même temps.
voilà, non, mais des très vieilles provinces avec voilà, les armes des villes, les armes des provinces, encore une fois, et leur spécificité culturelle qui, malgré le temps, malgré l'uniformisation à l'œuvre partout dans le monde, en fait, hein, eh bien, survivent.
Alors,
Et donc ça, c'était excellent. C'était ça.
cher Romain, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je voudrais vraiment que l'on voit avec vous, finalement, donc cette perception réelle, si l'on veut, donc de cette diagonale du vide, après l'avoir traversée. Vous écrivez d'ailleurs au tout début qu'au départ, cette expression convoquait un imaginaire riche chez vous, hein, chez vous et Justine, mêlant l'infini, les déserts, la liberté, mais aussi la désolation, l'abandon, voire la fuite. Alors, on peut peut-être parler d'emblée de cette notion de vide, finalement, qui est importante et qui fait référence à la question démographique, qui est un vrai sujet. Et vous écrivez d'ailleurs que de ces puissantes lois dépend l'avenir des terroirs que nous traversons. Parce que
Oui,
qu'est-ce, vous êtes confronté finalement à des fermetures de services
à des
publics.
fermetures dans.
Ouais.
Oui. Tout à fait, alors plusieurs. En fait, un exemple frappant là aussi, voilà, la diagonale du vide, c'est une notion qu'on a apprise sur les bancs de l'école. Il y a une autre notion que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler, c'est le fameux exode rural que Jean Ferrat chantait
Oui.
dans sa chanson La Montagne. Eh bien, ce sont des réalités, voilà, qu'on a pu appréhender tout simplement en traversant tous ces hameaux dans lesquels il y a encore peut-être 30, 40 ans, ce qui n'est pas grand-chose. En fait, c'était hier. Il y avait peut-être 5, 6, 7, 8, une dizaine de familles qui vivaient là et qui, en fait, ce hameau, eh bien, avait été doté d'une école, était doté, voilà, d'un minimum d'infrastructures. Et ces hameaux, en fait, aujourd'hui, sont pour la plupart désertés. C'est-à-dire qu'on traverse des ruines. Donc on voit les conséquences concrètes de cet exode rural. On voit les conséquences des friches industrielles, hein, les différentes industries manufacturières qui ont fermé, et voilà, ces immenses ruines qui sont là comme des carcasses d'animaux, des fossilisés qui attendent en fait une autre vie, ou en tout cas d'être entièrement recouvertes par le lichen. On voit ça. On voit les fermetures aussi de maternité, par exemple. La question démographique, voilà, ça c'est vraiment un sujet qu'on a pu voir typiquement en traversant le Morvan. On a pu se confronter à certaines réalités qui nous étonnaient. Je me souviens de notre passage à Ouroux en Morvan, où en fait la mère nous accueillait en nous expliquant que voilà, les femmes de son village doivent faire plus de 2 heures de route pour accoucher, ce qui est parfois un peu juste, parce
C'est
qu'il
moins
y a
qu'on
des
puisse dire,
accouchements.
qui sont
Voilà.
rapides.
Voilà. Et en fait, maintenant, il faut un hélicoptère, en fait, pour venir les chercher en cas d'urgence. Donc ce sont des réalités, en effet, la question démographique, chemin faisant par la marche, on la voit, et en effet, le vide démographique se fait, démographique, pardon, se fait. Les services publics ferment, les écoles notamment. On avait discuté du côté de Bar-les-Buzancy avec des hôtes qui nous expliquaient qu'en fait, passer en dessous du seuil de 7 habitants au kilomètre carré, eh bien, les cantons se vidaient progressivement. C'était en premier l'école qui fermait, et qui entraînait avec elle, eh bien, la poste, la gendarmerie. Et en effet, donc ça, c'est tendance, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, je vous en prie.
Non, non, ces tendances démographiques, c'est vrai, sont ne se, ne se ne se corrigent pas en l'espace de 2 ans, ou d'un mandat, même d'un, voilà, il faut du temps.
Et vous parlez notamment des cafés.
Oui, ben les cafés.
Excusez-moi, là j'ai un petit souci avec la pollinisation en ce moment. De petites allergies, mais tout va bien aller. Là, j'ai gentiment le technicien qui m'a donné un peu d'eau. Je reprends donc. Oui, donc au sujet des cafés, vous dites, mais où sont les cafés? À un moment, d'ailleurs, vous évoquez la vallée de la soif, sauf à un endroit, en fait, dans l'Allier, à Châtelus, je crois, hein, c'est ça. Et là, je vous cite, ce village gaulois habite un patrimoine vénérable dont le bistrot, classé monument en péril dans la diagonale du vide, fait partie intégrante. Dans le café aux bons amis, il est interdit de changer d'un iota la place des piliers de bar qui se retrouvent chaque jour pour boire leur petit blanc et déguster les cuisses de grenouille. Donc là, vous en avez trouvé quand même.
Oui, oui, oui,
Oui.
oui, oui. Ben, heureusement, en fait, et c'est là que, en fait, on se rend compte aussi de le fameux bistrot. Voilà, l'importance du bistrot, centre de gravité d'un village, centre de gravité d'une vallée, parfois même, où en fait, on vient, on se rencontre, on joue aux cartes. On en a, oui, on en a, on en a, on en a, On en a pratiqué quelques-uns de bistrots, parfois tenus par des personnes qui n'étaient plus en âge de tenir des bistrots. Non, non, non,
Non.
mais qui tenaient bien la barre et le comptoir d'ailleurs. Non, non, bah, c'est des lieux en fait où on se retrouve on en a trouvé, c'est vrai, voilà, forcément, y a, les modes de vie changent. Alors déjà, la démographie étant ce qu'elle est dans ces terroirs, c'est difficile parfois d'avoir des clients, mais en plus, les modes de vie changent, et pas forcément, ne vont pas forcément dans le sens non plus du bistrot. Forcément, le Covid aussi a changé aussi beaucoup de
Oui,
choses. Les
bien
gens,
sûr.
enfin, c'est vraiment, voilà, on reste plus facilement chez soi. J'en profite en parlant de bistrot et de café associatif pour justement parler de ces lieux qui tiennent grâce à un engagement souvent en fait bénévole. Associatif, justement, vraiment l'engagement bénévole, on a pu en voir de nombreux témoignages, et surtout c'est grâce à lui qu'aujourd'hui bien des lieux, bien des villages restent animés, et bien de cafés restent ouverts parce que justement il y a un engagement derrière qui est souvent gracieux, qui est souvent bénévole, et c'est à ça que tient la vie dans le vide parfois.
Absolument. Et vous savez, c'est une notion qui, dans cette radio, nous est très chère parce que nous sommes pour la plupart bénévoles. Et si nous le faisons, c'est parce que justement, cela a du sens. Je pense aussi, donc en ce qui concerne ce bénévolat, en Creuse, à Massa, cette supérette qui est en même temps boucherie, traiteur, relais colis et j'en passe, hein, lieu de convivialité. On voit que c'est vraiment fondamental. Alors, ça, c'est une partie du pays réel, mais. À côté de cela, il faut quand même parler de quelque chose qui est associé finalement, ce sont les habitants, mais surtout la résilience de ces habitants dans ce pays réel, parce que vous avez découvert des habitants emplis de vitalité, profondément engagés, porteurs d'initiatives, qui aiment leur terre, leur village. Et j'aimerais peut-être que là, vous nous citiez un exemple, alors je ne sais pas, soit peut-être la carrière de Kaolin à Échassières, ou autre, ce que vous préférez.
Alors là, c'est vrai que ça a été une surprise pour nous de passer à Échassières, qui aujourd'hui en fait est au centre d'un projet énergétique, en tout cas minier, des plus stratégiques, puisque sous cette carrière de Kaolin, la France et Imerys, l'entreprise qui exploite le site, vont en fait sont en train de creuser une mine de lithium. Voilà, avec l'électrique, on sait que c'est une terre rare ô combien importante. Et là, je crois qu'il y a quelques semaines, l'État vient de valider en fait un financement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la enfin pour mener à bien ce projet.
Mais
Et
c'est
c'est vrai
formidable.
que oui, bah oui, mais on en discutait avec les directeurs du site, justement, et qui étaient vus vraiment comme des messies en fait dans la région de l'Allier, parce que ça allait être 600 emplois directs, je crois. Donc
C'est pas
c'est un
rien.
bassin, c'est une région qui va renaître en
Ouais.
fait avec ce genre de projet. Donc là, on est vraiment sur un projet pharaonique de grand ensemble. Mais je pourrais aussi revenir sur des actes peut-être plus individuels où en fait
Oui.
on a rencontré parfois, c'était très drôle parce que le jour J, on rencontrait un agriculteur céréalier. Qui avait 300-400 hectares de céréales, donc qui a dû fonctionner pendant des années comment dirais-je, à l'agriculture conventionnelle, avec tout ce que ça veut dire d'ailleurs en usage de certains produits, etc. Et
Expansive.
voilà, n'est-ce pas? Et le lendemain, on était chez des permaculteurs qui étaient en reconversion et qui voulaient faire pousser des petits plants d'un peu tout. Et en fait, c'est vrai que tout ce qui liait ces personnes, en fait, même si les moyens divergent, c'est la fin qu'ils poursuivaient, qui est en fait bah, faire revivre leur terroir ou l'entretenir, perpétuer un héritage ou en tout cas revenir, ou pour d'autres, revenir justement à des choses plus simples, la terre, les fruits, l'agriculture, quoi. Et en fait, c'était très intéressant de voir tous ces profils. Qui en fait étaient quand même animés par un même amour pour leur terre, mais un amour voilà, qui s'exprime pas forcément la même manière.
Et en tout cas, ça devait être très beau parce que, comme on a vu avec Justine, le sens aussi, vous, de votre chemin, c'était tout de même de guérir de certaines blessures, ou en tout cas de, oui, de guérir, je pense qu'on peut le dire, et de voir tout cela, ça a dû être très, très énergisant et vous redonner l'espérance, la belle espérance, d'autant que ce pays réel, c'est aussi, bien sûr, la beauté de la France, la diversité de ses paysages, que vous décrivez très, très bien dans votre livre. Mais je voudrais aussi parler, que vous nous parliez un petit peu de la diversité géologique des terroirs qui se retrouvent dans les éléments bâtis, les maisons et surtout les églises. Et parce que j'ai vraiment l'impression, Romain Bresse, que vous êtes très attaché à cette notion de terroir.
Oui, ben en fait, oui, le terroir plus que le territoire, qui pour moi reste quelque chose d'un peu voilà, administratif. Le terroir, je trouve ça plus humain, plus charnel. Le terroir, ça mêle un peu tout, ça mêle la géographie, la géologie, ça mêle aussi la culture, l'histoire, l'humain. Donc oui, des terroirs, et en fait, pour rebondir sur vos propos, oui, ça a été 4 mois d'émerveillement continu, en fait, parce qu'on a traversé un pays. Alors non seulement voilà, les paysages humains étaient remarquables, mais aussi les paysages géographiques. C'est tout simple, hein, vous prenez depuis Sedan, vous tracez une ligne à vol d'oiseau de 100-120 km plein sud, correspond un peu à l'axe qu'on a pris. Et en l'espace de quelques dizaines de kilomètres, en fait, vous commencez à marcher dans ce massif des Ardennes, qui est une succession de cuestas, de côtes où on ne voit jamais l'horizon. Et on a ensuite le massif de l'Argonne, qui est immensément boisé, avec tous ces ossuaires de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, et où là où vraiment on marche dans l'histoire. Mais jamais en le voyant, l'horizon qui soudain, eh bien, se dévoile complètement quand on arrive en Champagne, avec ces plaines immenses, infinies, ces champs. Et quand on continue un peu plus au sud encore, eh bien on arrive vers Saint-Dizier. Et après Saint-Dizier, le lac du Der, qui est une mer intérieure. Enfin, on n'a pas trop regardé les cartes avant avec Justine. Donc en fait, on s'est laissé complètement émerveiller. Et je me souviens, on est arrivé au bord du lac du Der, il faisait un froid glacial. On a
Vous
vraiment
étiez
été
en
ébahis.
avril, hein, justement.
Oui, on a eu un sale temps. Mais on a quand même pris une glace parce qu'on était au bord d'une mer intérieure dont on soupçonnait même pas l'existence. Et en fait, la France s'est remplie comme ça de trésors. Je me souviens aussi d'un ruisseau, le ruisseau de la Doue, ou la Douée, je sais pas, près de Martel. Vraiment, alors là, plus au sud, je crois que dans le Lot, ou le Lot-et-Garonne, où là, c'est une merveille, une succession de moulins. On se croirait voilà, à l'ombre des châtaigniers, des figuiers, si je ne me trompe pas. C'est exceptionnel. Et puis surtout, vous disiez cette diversité géographique, géologique, qu'on retrouve dans le bâti, et qui fait de la résistance à l'uniformisation tout à fait triste de notre époque. Mais exemple de diversité géologique, c'est dans le Gers, entre Condom et Eauze.
Oui.
Il n'y a que 30 km de marche, une bonne journée de marche pour un marcheur chevronné.
Tout de
Condom
même, oui.
calcaire, cathédrale magnifique, et en fait, en 30 km, on passe à Eauze, à Pont-le-Bois et les briques rouges, et une église du pur style gothique languedocien, et enfin, on change complètement de terroir et de culture aussi, puisque commencent à poindre les bérets et les frontons du sud-ouest.
Les bérets que vous aimez bien, vous en arborez d'ailleurs, hein, en quatrième de
Oui.
couverture sur la photo. Je vais vous citer parce que, bien entendu, ce qui est très représentatif, ce sont les églises et les églises de cette diversité. Et les églises, on les voit de loin, les clochers, on les voit très très loin. Mais vous écrivez à la fin, dans toute cette disparité, au milieu de cette hétérogénéité des formes, des sols, de matériaux, d'époques de construction, d'époques de restauration, se maintient un fil rouge, celui de l'excellence dans la réalisation. Et vous continuez une excellence inspirée par la transcendance. Vous avez quelque chose à rajouter?
Ah ben, il faut en fait, il faut voir Rocamadour, voilà, une fois dans sa vie pour être subjugué, en fait, et ne plus savoir où démarre la falaise, où elle finit, où démarre le sanctuaire, où il termine. Mais en tout cas, une chose est sûre, comme le fait des arbres qui l'entourent et comme la falaise, les deux tendent vers le ciel, quoi.
En tout cas, c'est un émerveillement de vous écouter, tout comme c'est un émerveillement de vous lire, Romain Bress et Justine. Il nous reste peu de temps. Je voudrais citer tout de même la fin de votre entretien avec le géographe, donc Christophe Guilly, ce qu'il écrit, parce que je pense que ça, vous êtes en parfait accord, puisque vous l'avez cité d'ailleurs. Parce que la vie est au-dessus de tout et la vie, c'est le réel. Un monde factice est désincarné. Qu'est-ce que l'essentiel? La réalité. On fait parfois face dans des conférences, dans des réunions à des robots. Et cela ne m'intéresse pas. La majorité des gens n'est pas comme ça. L'humanité existe. Elle est là. Et face à elle, le monde factice va s'effondrer. Alors, un dernier mot, Romain?
Eh bien, passer après Christophe Guilly, vous ne me faites pas un cadeau là, mais non, non, je dirais qu'en effet, en fait, ce qu'on a rencontré pendant 4 mois de marche, oui, c'est l'humain. Et en fait, on l'a vu, on s'est confronté à lui, confronté sans confrontation pour le coup, puisqu'il nous a été, on s'est frotté à lui pour notre plus grand bien. Et en effet, ça a été une vraie, une vraie rencontre. Et plus que des individus, voilà, on a vraiment rencontré des personnes. Et en fait, voilà, pour la rencontre, il faut un peu d'audace et un peu de temps aussi. Ouais.
Alors Justine m'a confié, alors peut-être que je ne devrais pas le dire, mais elle m'a confié que votre projet actuel, c'était en voiture, d'aller voir justement tous ces hôtes qui vous ont reçus avec tellement de bienveillance, d'affection, voire d'amour, avec votre livre pour leur dédicacer et leur offrir. Et je trouve que c'est un très très beau geste.
La diagonale du livre, voilà, on va essayer de faire ça en effet cette
voilà,
été.
La diagonale du livre, exactement. Écoutez, un immense merci, merci Romain, merci Justine Bress de nous permettre, à travers votre traversée, de mieux comprendre hein, cette partie de notre pays, si peu connue finalement, d'en découvrir, donc on l'a compris, toute la richesse, la diversité géographique, celle de ses terroirs, de son patrimoine, mais surtout de ses habitants, de leur hospitalité, de leur faculté de résilience, mue par leur amour de la France, de notre pays réel. Et puis c'est aussi une très belle leçon de vie également à travers le cheminement de votre trio familial si attachant et on espère un prochain ouvrage, chers Romain et Justine. Un grand merci encore. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Une famille en chemin, sous-titré La diagonale du vide et c'est édité chez Transboréal. Il me reste donc à vous remercier tous les deux bien chaleureusement. Et puis, je remercie également donc notre technicien. Et puis, chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite surtout une très bonne lecture.
Merci à vous et merci à vos auditeurs, en effet.
Merci, Romain.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, dirigé par Pascal Maurer. Émission préenregistrée les 16 et 21 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 22 avril de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît et Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.